Et au menu de notre club cet après-midi, les Français et la science, un tour de France de l'archéologie, un festival de géographie et le rôle de nos rêves. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, sale temps pour les moineaux parisiens.
Eh oui, en 10 ans, 3 moineaux sur 4 ont disparu de la capitale selon 2 associations. On reçoit Philippe Maintigneux du Centre ornithologique d'Île-de-France pour commenter ce déclin, j'y arrive.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue nos têtes au carré cet après-midi, la chercheuse Perrine Ruby, le neurologue Yves Agide, Thibaut Nguyen de l'Institut Ipsos et les étudiantes en archéologie, Marie de Cherizet et Anne-Lise Bellé. Bonjour à vous tous. Bonjour. Soyez bonjour. Les bienvenus. Thibaut Nguyen, est-ce que les relations des Français avec la science sont bonnes?
Elles sont de plus en plus ambivalentes. Et on va essayer de comprendre pourquoi.
Yves Agide, Thibaut Nguyen sera l'un des scientifiques justement que vous allez inviter au Théâtre de l'Odéon samedi 7 octobre toute la journée pour un rendez-vous S3 Odéon. C'est la 3e édition de ce rendez-vous de la science, de la santé, de la société, c'est ça?
Les coups de théâtre de la santé pour savoir comment sera la médecine et la science du futur.
Avec des conférences donc tout au long de la journée, on va en reparler avec vous. Marie de Cherizet, Anne-Lise Bellé, vous êtes étudiante en master d'archéologie et vous terminez l'archéotour. C'est un tour de France de l'archéologie. Sur quel site est-ce que vous êtes actuellement, Marie, peut-être?
On est avec l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche Archéologique, à Lille-Adam.
Lille-Adam, voilà. Et vous terminez, hein, parce que ça fait combien? 2 mois maintenant que vous êtes sur la route?
Oui,
bon, vous avez fait des découvertes intéressantes ou pas?
On a appris plein de choses.
Bon, on va en discuter et avec vous dans un instant pour découvrir l'archéotour. Et puis Perrine Ruby, vous êtes invitée ce week-end d'un autre festival, c'est le Monde Festival, qui est organisé autour du rêve. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine?
Ah oui, je crois. Pour le rêve de la nuit, en tout cas, c'est sûr, mais je crois que l'intérêt du festival Le Monde, c'est qu'il joue sur l'ambiguïté du terme, le rêve de la vie éveillée et puis le rêve de la nuit également.
Oui, et on va s'intéresser vraiment à vos recherches scientifiques en particulier. Vous êtes assez peu nombreux dans le monde, on va le voir, et c'est intéressant de voir comment vous étudiez le rêve et quelle est la méthode que vous employez en particulier. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Le déclin fulgurant des passereaux des villes aujourd'hui à la une de la science.
Ça, ce sont des moineaux. 10 moineaux. Moi. 10 moineaux, moineaux, moineaux. Moi, non. Moineaux, 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 moineaux.
Voilà, et c'est le premier mot qu'apprend à dire Bambi, le moineau, et en 10 ans, c'est 70% de la population de ces petits passereaux qui a disparu à Paris, un chiffre choc publié aujourd'hui par 2 associations de protection et qui pose cette question sur la baisse de la biodiversité en ville. Axel Villard, on en discute avec un des commanditaires de cette étude, Philippe Maintigneux.
Bonjour à vous Philippe Maintigneux.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire du Centre ornithologique d'Île-de-France et entre autres, depuis 14 ans, vous comptez les moineaux à Paris. Quand est-ce qu'il a commencé réellement ce déclin fulgurant?
Alors, l'enquête a commencé en 2003. À Paris, on a eu des premiers résultats qu'on a publiés en 2008, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans d'observation. Et à cette époque, la population de moineaux était encore relativement stable à Paris, sauf dans deux quartiers qui étaient situés dans le 11e arrondissement et dans le 15e arrondissement, où là, il y avait eu une première chute assez spectaculaire et qui nous avait évidemment interpellés. Donc on avait observé un petit peu ces deux quartiers, on avait remarqué qu'il y avait une modernisation de ces deux quartiers pendant cette période et on a commencé à se poser des questions.
Parce que vous suivez vraiment les moineaux quartier par quartier?
Alors oui, on suit les moineaux assez précisément. On a mis au point un protocole qui est assez simple à utiliser pour les observateurs. On a réparti 200 points d'observation de manière géométrique à l'intérieur de la capitale. Et chaque année, ces 200 points sont suivis par une cinquantaine d'observateurs au printemps.
Alors pourquoi les moineaux disparaissent de Paris?
Alors, il y a sûrement beaucoup de raisons et on ne les connaît pas toutes, évidemment. Celles qu'on met le plus facilement en avant, parce qu'elles nous paraissent les plus évidentes, c'est une perte d'habitat, d'une part, donc perte des sites de nidification, perte des endroits où les moineaux peuvent se reposer, peuvent former leur dortoir, et puis également aussi une baisse des populations d'insectes à l'intérieur de Paris, et les insectes sont très importants pour les moineaux à l'époque de l'élevage des jeunes. Les jeunes sont nourris avec beaucoup de moineaux parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les insectes.
Alors comment vous expliquez ça justement par rapport à la façon dont on construit les bâtiments aujourd'hui et à la modernisation? Il y a moins d'espace de niche pour ces oiseaux?
Absolument. Alors le problème se pose en construction, comme vous venez de le dire, mais aussi en rénovation. Mmh. En rénovation, on voit bien que pour des fois des buts tout à fait louables, on supprime des cavités, des petites bouches d'aération dont les grilles étaient tombées, des petits interstices qui s'étaient créés dans les murs ou dans entre les autour des fenêtres, etc. Tout ça, on a tendance à boucher et ça fait de l'habitat en moins pour les moineaux. Donc ça, c'est dans la rénovation. Et puis, dans la construction moderne, on voit bien apparaître des beaux immeubles avec des façades tout en verre, bien lisses. Et là, il n'y a pas beaucoup de place pour la biodiversité, effectivement.
Et ce problème de logement dont vous parlez, il est valable pour tous les petits oiseaux ou seulement le moineau ?
Non, il y a plusieurs espèces qui vivent sur les immeubles, comme par exemple les hirondelles ou les martinets. Hein. Les martinets occupent des cavités qui sont souvent un peu les mêmes que celles des moineaux, mais pas à la même période de l'année. Et puis les hirondelles, elles fabriquent des nids. Et là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une petite tendance à les détruire parce qu'on trouve que ça fait pas propre. Mais c'est un peu dommage.
Vous parliez de la biodiversité et des insectes, ça veut dire que c'est toute la biodiversité des villes qui baisse en ce moment depuis des années ?
Oui, nous c'est pour ça aussi qu'on s'est intéressé au moineau, parce que bon, le moineau, tout le monde aime bien le moineau, mais c'est quelque chose que tout le monde perçoit, cette disparition du moineau, mais c'est symbolique, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'était facile à observer, facile à mesurer, mais effectivement, derrière la disparition du moineau, on voit bien qu'il y a la disparition des insectes, il y a aussi la disparition de certaines formes de végétation, puisque le moineau se nourrit aussi de graines, et il y a jusqu'à pas très longtemps, il y avait une lutte assez effrénée contre ce qu'on appelait les mauvaises herbes, mais ces mauvaises herbes produisent de la graine et de la nourriture pour les oiseaux et les moineaux en particulier.
Périne Ruby, vous aimez les moineaux? Je vous vois hocher de la tête.
Oui, je suis bien triste d'entendre ces mauvaises nouvelles. J'ai juste envie d'intervenir pour dire qu'à Lyon, ça n'est pas encore le cas. Il y en a beaucoup sur mon balcon.
Voilà, puisque c'est là que vous habitez. Vous dites qu'il y a beaucoup de moineaux sur le balcon. Est-ce que vous avez fait la même étude dans d'autres villes de France, Philippe Maintigneux?
Non, malheureusement non. Nous représentons une association d'Île-de-France et la LPO. Et nous faisons cette enquête avec la LPO. Il n'y a pas encore eu, que je sache, d'autres enquêtes dans d'autres villes de France, mais il y en a eu dans d'autres villes en Europe depuis la fin des années 90. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans pas mal de grandes villes d'Europe, hein, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande, etc. Il y a pas mal de grandes villes où le phénomène est similaire.
Est-ce que si on a un balcon ou même une maison, on peut faire quelque chose à titre personnel pour les passereaux des villes?
Alors on peut faire pas mal de choses. Ça va de d'installer des nichoirs, mais il y a des nichoirs, il y a des petites contraintes au niveau des nichoirs dans la mesure où le moineau est une espèce coloniale. Donc un nichoir tout seul, ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment l'adapter à cette espèce coloniale. Et puis il y a aussi d'intervenir auprès des gens qui gèrent les espaces verts qu'on a autour de nous, soit ceux qui sont en bas de son immeuble, alors ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être le syndic de l'immeuble quand on est propriétaire, ça peut être d'autres, son employeur si on voit qu'il y a un espace vert dans ses bureaux, en fait, etc. De manière à la fois aménager et rénover les immeubles d'une manière favorable à la biodiversité, puis gérer les espaces verts aussi dans le même sens.
On peut faire des nichoirs collectifs aussi avec des étages, des petits escaliers, enfin on peut aménager les choses comme il faut.
C'est ça, le moineau est grégaire et voilà. Il a besoin de vivre en communauté.
On peut aussi peut-être vous aider à les compter, non ?
Alors, on peut aussi nous aider à les compter. On a actuellement une équipe d'une cinquantaine d'observateurs. Il y a toujours un petit peu de renouvellement. Il y a 200 points à observer. Ça fait pas mal de points à observer. Donc, on a besoin de monde. On a aussi besoin de... on va peut-être probablement développer l'enquête. Elle va se continuer, hein, évidemment. On va continuer à compter les moineaux. Et on va aussi probablement commencer à étudier les colonies de moineaux, puisque, comme je vous le disais, c'est un oiseau grégaire. Et ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment évoluent ces colonies, puisque en deçà d'un certain seuil, une colonie disparaît tout d'un coup. C'est-à-dire, si la colonie ne comprend pas assez de membres, elle va disparaître tout d'un coup. Donc, on aimerait bien connaître l'évolution des colonies, quelles sont leurs conditions favorables, etc.
Bon,
donc, effectivement,
ouais.
On a besoin de monde.
Ah, mais pour les volontaires, il y a le site internet, hein, c'est CORIF, www.corif pour le Centre ornithologique d'Île-de-France. Je suis sûr que vous avez plein de moineaux à la Pitié-Salpêtrière, Yves Gide. Hein.
Oui, plein d'oiseaux. Moi, je me demandais si les moineaux n'étaient pas gênés par d'autres espèces qu'on voit de plus en plus fréquemment à Paris.
Vous pensez aux corneilles ou à d'autres?
Oui, par exemple.
Philippe Martigneux.
Oui, non, pas spécialement. On pense souvent aux pies. Les pies, il n'y a pas spécialement. Les études ont été faites d'augmentation des populations de pies. La prédation est quelque chose d'assez normal. Hein. On pense souvent aussi à l'augmentation de population d'éperviers, l'apparition d'éperviers, etc. Mais c'est vraiment totalement marginal. Quelque chose. Les éperviers représentent une demi-douzaine de couples dans Paris. C'est totalement marginal. Et ça fait partie, ça, du fonctionnement normal de la biodiversité. Je crois que quand on cherche de ce côté-là, on est un peu sur des mauvaises pistes. Il y a d'autres causes qui font beaucoup plus de dégâts.
Merci Philippe Martigneux. Dommage, hein, parce qu'on les aime, ces moineaux. Donc on va essayer de faire des petits nichoirs collectifs pour eux, c'est promis. Merci à vous.
Et puis
donc le site CORIF, www.corif, il est sur le site de la Tête au Carré. Merci Axel.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la semence humaine peut accueillir plus de 47 types de virus et de germes. Bien sûr, le VIH du sida peut être transmis par le sperme, mais une nouvelle méta-analyse élargit cette capacité à de nombreux autres de ses compatriotes. Zika, Ebola, l'herpès, l'hépatite B font partie des plus connus, mais d'autres moins soupçonnés, comme le virus de la dengue, la grippe et d'autres maladies respiratoires, peuvent aussi se développer dans les testicules et peuvent donc être transmises via le sperme. Plus d'études seront nécessaires pour savoir si une infection peut effectivement se développer via une contamination par voie sexuelle. Les grenouilles préhistoriques géantes étaient sûrement capables de broyer des dinosaures avec leur bouche. En étudiant la puissance des mâchoires des grenouilles cornues actuelles, une équipe de chercheurs australiens a été étonnée de la puissance de celles-ci, qui sont capables d'exercer une pression de l'équivalent de 50 litres d'eau posée en équilibre au bout de vos doigts. Grâce à cette découverte, ils estiment que les Bilzébufo empinga, des grenouilles géantes vivant au Crétacé supérieur, avaient des mâchoires au moins aussi puissantes que les loups ou les tigres actuels et devaient certainement se nourrir de jeunes dinosaures. Et puis la police allemande abat un bison sauvage alors que cet animal n'avait pas été aperçu dans le pays depuis plus de 250 ans. L'histoire racontée par Tabel Spiegel est cocasse. Le bison apparu aux abords du village de Lébus avait certainement été originaire du parc de Warta en Pologne où vivent 3000 bisons sauvages. Les autorités l'ont certainement repéré et abattu pour des raisons de sécurité. Immédiatement, le WWF a porté plainte contre les forces de l'ordre de la petite ville du Brandebourg. Le ministre de l'Environnement de Brandebourg a déploré cet acte et précisé en interview que cet animal n'était absolument pas dangereux pour l'homme. Si c'était le cas, ajoute-t-il, la Pologne, dont l'animal est le symbole, devrait être classée en zone dangereuse. Et c'est le club dans un instant. C'est comme ça, et les Rita Mitsouko à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Cet après-midi dans le club des têtes au carré, les Français et la science, un tour de France de l'archéologie, un festival de géographie. On partira à Saint-Dié-des-Vosges dans quelques minutes. Et puis le rôle de nos rêves, et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et toutes vos questions. Franceinter.fr, les réseaux sociaux avec le mot-clé, l'attaque. Yvagide, Thibaut Nguyen, on va commencer avec vous. Yvagide, vous êtes neurologue et membre fondateur de l'ICM, c'est l'Institut du cerveau de la moelle épinière qui se trouve au sein de la Pitié-Salpêtrière. Et vous animez, entre autres, vous aimez transmettre la science puisque vous êtes à l'initiative de S3 Odéon qui va se tenir samedi 7 octobre au théâtre de l'Odéon. Ce sera de 11h à 19h. Quel est le principe en quelques mots?
Le principe, c'est le futur de la santé avec la science qui est derrière. Ça repose sur quoi la santé? Vraiment, c'est la science. Mais ce qui est intéressant dans S3 Odéon, c'est la forme. C'est-à-dire que c'est toute une journée, pratiquement une bonne demi-journée.
11h-19h, oui.
11h-19h, avec presque une trentaine d'exposés de moins de 7 minutes, ouais, avec un message, tout ça de manière ludique, avec de la musique, et surtout beaucoup d'entretien avec le public, ouais, entre les orateurs qui sont de grands experts dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la science, et dans, ouais, le domaine aussi des humanités, disons.
Alors, le principe, il est amusant, parce que vous avez un casting de choc, hein, quand on regarde ce que vous avez fait les années passées, vous avez les meilleurs scientifiques français qui viennent sur scène, mais sauf que c'est une surprise. C'est-à-dire que vous n'annoncez pas le programme à l'avance.
Oui, peut-être qu'il faudrait le faire. Mais oui, l'idée, c'est quand même, c'est comme un théâtre, c'est une surprise. Ouais, c'est, ouais, les coups de théâtre de la santé. Donc on lance ça comme ça. Ouais. Il y a 1000 places, hein, et généralement, ça a beaucoup de succès.
C'est
donc
ça.
On gardera probablement la formule.
Le principe fonctionne très bien. Il faut s'inscrire, évidemment. Il faut réserver ses places, hein, en allant sur le site du théâtre de l'Odéon. Alors parmi, il y a au moins une personnalité qu'on peut citer, parce qu'il est là avec nous derrière le micro, c'est Thibaut Nguyen. Vous êtes directeur du département Tendance et Prospective à l'Institut de sondage Ipsos. Alors vous, votre travail, c'est d'analyser l'évolution des comportements et des mentalités sur différents sujets de société, c'est ça?
Exactement. On essaye de compiler toutes les sources d'informations qu'on peut avoir, de mener nos propres enquêtes pour effectivement connaître un peu l'état des lieux, des perceptions des Français et d'autres sur la santé, l'alimentation, la technologie, et essayer de faire des hypothèses pour le futur aussi. Ouais. Comment vont évoluer ces comportements et ces attitudes?
Et donc là, sur la scène de l'Odéon, c'est ce dont vous allez parler précisément?
Oui, centré évidemment sur la science.
Sur la science, ouais. À quel moment d'ailleurs de la journée est-ce que vous allez intervenir? Est-ce que vous faites une ouverture qui pourrait justement faire une sorte d'état des lieux de la science aujourd'hui ou pas?
Je suis pas sûr que ce soit prévu, mais effectivement, j'ai envie de dire que n'étant pas scientifique et étant plutôt le relais un peu de l'opinion publique, je suis plus là pour poser des questions.
Ouais.
Et ouvrir le débat, mais ce sera, c'est pas encore définitif.
Yvagide.
Non, ce qui est amusant pour Monsieur Nguyen, c'est que vous ne le savez pas, mais vous allez être obligé de faire l'acteur, parce que c'est évidemment des grands spécialistes.
Il ouvre
mais
grand
c'est
les
sur
yeux,
la scène,
hein,
de l'Odéon. Et vous allez être obligé de venir à l'Institut de France et on va faire des répétitions. Moi-même, je dois parler et je répète comme tout le monde.
Ah
et
oui, vous faites répéter les scientifiques, vraiment?
Ah oui, tout le monde. Oui. Tous les orateurs répètent, parce que c'est quand même, il faut savoir un texte, hein, comme, ouais, un acteur. Ouais. Alors, il y a des acteurs qui sont très bons et il y en a qui sont un tout petit peu moins bons, mais dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment excellent.
Oui,
vous verrez. On va beaucoup s'amuser.
Et puis, il faut trouver sa place sur scène, quand même. Hein.
Oui, mais c'est très bien organisé.
Hein. Oui, mais enfin, quand même, le théâtre de l'Odéon, c'est quand même pas rien.
Ouais, hein. C'est aussi un relent de 1968. Hein. C'est quand,
ouais,
même le théâtre de la Révolution. Et donc là, on espère de l'évolution de la santé du futur. Bon. Alors, bienvenue.
Bon, ben, vous êtes prêt, Thibaut Nguyen?
Je vais
à affronter la scène
ce week-end.
C'est ça. On pourra faire une tirade de n'importe quelle pièce. En tout cas, vous allez parler donc de ces liens entre les Français et la science. Comment vous étudiez-vous cette question? Vous faites des enquêtes spécifiques ou au contraire, vous compilez ce qui existe déjà pour essayer d'en tirer de grandes tendances?
Eh bien, les deux. Ipsos réalise beaucoup d'enquêtes pour plusieurs acteurs, dont des acteurs du monde scientifique, des laboratoires, des acteurs publics et privés. Pas mal d'entre elles ont pour sujet, peu ou prou, la perception du monde scientifique plus ou moins restreint à la santé ou à l'ensemble de la science. Et nous, notre travail est aussi d'aller regarder toutes les autres sources qui peuvent être, qui peuvent ne pas être Ipsos, ouais. pour voir si elles convergent, si elles divergent, s'il y a des points communs, et surtout des trajectoires. L'idée, pas de poser une vérité sur l'état de l'opinion, mais davantage de raconter que quelque chose évolue et qu'il y a peut-être de nouvelles questions à se poser.
Donc c'est une sorte de photographie quand même de l'époque.
Photographie avec des tendances. De l'époque, avec une, une dynamique et une trajectoire qu'on essaye d'identifier.
Alors quand vous mettez toutes ces enquêtes dans le shaker, qu'est-ce qui ressort finalement aujourd'hui de cette relation société et science ?
Je crois que le mot qu'il résume bien, c'est ambivalence.
Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire quoi alors finalement ?
Ambivalence, ça veut sans doute dire que si on regarde un peu plus loin dans le passé, sans doute la science avait, on va dire, un imaginaire beaucoup plus unanimement positif, comme le principal acteur du progrès. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que à plusieurs types de questions, on a des réponses assez contrastées sur la perception de la science. Donc je ne parle pas du tout de, on va dire, de critique ou de défiance, mais davantage effectivement de positions qui peuvent être mitigées en fonction du sujet scientifique, en fonction de l'acteur de la science qui est concerné. Quelques exemples de chiffres qui peuvent paraître contradictoires. On a à la fois à la question « les scientifiques aideront à vivre mieux les générations futures », on a un oui assez franc à 65%. Et sur une question « la science et la technologie produisent plus de dommages que d'avantages », on a aussi un oui à 40% qui est en ascension. Donc on a vraiment pour moi cette, un peu ces ingrédients de, d'une opinion publique qui est très partagée, très indécise et surtout très perplexe.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme événements qui ont pu justement expliquer ces changements un petit peu dans la perception de la science ?
Je pense que c'est une combinatoire de différents facteurs. Alors, je vais un peu caricaturer, mais si on veut analyser ça, on voit très bien sur d'autres domaines sur lesquels on fait des enquêtes, qu'il y a une remise en cause, en tout cas un questionnement assez transversal des Français et d'autres du progrès. La base étant de se dire, on sait aujourd'hui, et c'est partagé dans le monde entier, qu'on est face à une crise écologique, à une crise économique, une crise idéologique. On sait qu'on consomme à peu près 1,7 planète à l'heure actuelle. Ce qui fait que le réflexe est très, on va dire, est très très commun de se dire, est-ce que le progrès qui jusqu'ici nous a mené à plus de confort pour moins d'efforts, est-ce qu'il va toujours dans le bon sens ? Et est-ce que son moteur principal, qui dans les derniers siècles a été la science, du coup, on doit toujours lui faire confiance de la même façon, ou est-ce qu'on doit aussi le questionner ?
Perrine Ruby.
Oui, j'avais juste envie de faire un petit commentaire pour défendre cette pauvre science, simplement par rapport à la question qui était, enfin des réactions qui avaient l'air de dire que la science pouvait amener des mauvaises évolutions. J'ai envie de dire qu'un résultat scientifique, c'est un résultat scientifique. La seule chose qui amène des évolutions, c'est l'usage qu'on en fait. C'est pas le résultat scientifique qui amène.
Alors c'est quoi ? C'est finalement la part entre la recherche et puis ces applications que vous essayez de distinguer là dans ce que vous dites ou pas ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est la politique, c'est les hommes qui décident ce qu'ils font de leur connaissance. Mais on ne peut pas incriminer la connaissance dans une mauvaise évolution de...
Thibault Nguyen.
Merci.
Oui, c'est très vrai. Je pense qu'il y a aussi une sorte de retour, j'allais dire retour de bâton, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'une science aussi qui a été... le principal outil de modernité, que les gens ont aussi beaucoup investi dans les siècles précédents, d'un pouvoir extrêmement fort, et qui aujourd'hui a un peu de la peine à endosser tous les effets secondaires aussi du progrès. Avec effectivement ce que dit Perrine, qui est très vrai. Quand on regarde dans le détail, les différents acteurs dans le gros paquet de la science sont perçus un peu différemment, que ce soit des chercheurs, les laboratoires, les acteurs de la santé, etc. On n'a pas forcément non plus la même ambivalence sur tous les tous les postes. Mais c'est vrai qu'on fait aujourd'hui pas mal l'amalgame entre la connaissance et les réseaux qui la transforment en produits, en services. À tort ou à raison, on estime qu'aujourd'hui ces mondes-là sont peut-être plus liés qu'avant.
Yves-Agide Estraudéon, c'est une façon aussi de donner une autre image, peut-être d'essayer en tout cas de donner une autre image de la science.
Une image favorable. Je pense que ce mot d'ambivalence, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut séparer la question du bien-être des Français, qui dans une période économique que vous avez bien soulignée, est vraiment difficile. Mais de l'autre côté, la science, c'est aussi pour lutter contre les injustices, c'est lutter contre les maladies. Et Dieu sait si elle le fait avec une efficacité redoutable. Regardez, depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de presque 20 ans pour les Français. C'est quand même extraordinaire. On arrive à bout des maladies. Malheureusement, pas toujours des maladies neurodégénératives dont je m'occupe. Mais enfin, donc peut-être faut-il balancer, je pense, sous cet angle-là.
En tout cas, ce sera l'occasion d'en discuter au Théâtre de l'Odéon, puisque le principe aussi, c'est de pouvoir rencontrer directement les chercheurs, pas seulement de les voir et les applaudir, hein, c'est de pouvoir les croiser et vraiment d'entamer des discussions.
Discuter, puisque il y a des séries et des entractes qui durent une heure. Ouais. Et donc, pendant cette heure, tout le public est convié à aller discuter avec les différents experts qui prendront la parole.
Voilà, autour de la santé principalement et des rapports science-société, et puis une trentaine de scientifiques qui seront donc présents sur scène entre 10h, 11h et 19h, donc ce sera samedi 7 octobre. Il faut prendre vos places dès maintenant sur le site du Théâtre de l'Odéon, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde comme les années passées. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on parle archéologie dans un instant avec un tour de France organisé par deux jeunes étudiantes. Futuropello avec Hands.
La tête au carré, le club.
Vous êtes étudiante, non?
Oui.
En quoi?
Archéologie asiatique.
Ah, les ruines, les vieilles pierres, la mémoire des civilisations.
N'arrêtez jamais de parler.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, c'était rien que pour vous, Marie de Cherizet et Annelise Bellet, c'est OSS 117, hein, le Caire, nid d'espions, pour rendre hommage à cette discipline que vous aimez tant, l'archéologie. Vous êtes étudiante en master à Paris 1 Sorbonne et vous avez une idée originale, celle d'organiser un archéotour qui va se terminer là dans quelques jours après deux mois de pérégrination ou trois? Combien de temps vous avez passé sur
deux
le terrain?
Deux mois et demi.
Deux mois et demi, hein, c'est ça. Pérégrination archéologique, parce que quoi? C'est d'abord votre passion que vous aviez envie de transmettre, Annelise?
Oui, je pense que c'était le moteur principal. Voilà, on voulait aller fouiller, puis pouvoir raconter ce qu'on faisait. Le partager avec le plus de gens, enfin ceux que ça intéressait. Voilà, on a eu beaucoup de questions, donc pouvoir apporter des réponses.
Marie de Cherizet, comment vous avez travaillé sur cet archéotour alors au départ? Comment est venue l'idée d'abord?
Alors ça c'est parce qu'on est à la faculté ensemble, et donc naturellement en étudiant le même sujet, Il y a des questions qui viennent, on en discute avec des discussions passionnantes en général. Mmh. Et on aime toutes les deux voyager et en fait, on fait de toute façon des fouilles archéologiques pendant notre temps d'été.
Ouais.
Et très naturellement, l'idée du projet est venue. On s'est dit, pourquoi pas partir, faire un peu comme un road trip.
Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais.
Il y a un peu de ça. Et en fait, petit à petit, tout s'est mis en place. Voilà, mais vraiment naturellement.
Il y avait quoi ? Il y avait une volonté de faire découvrir aussi peut-être cette discipline assez mal connue ou dont on a une idée peut-être un petit peu biaisée, non ?
Oui, il y a beaucoup de préjugés sur l'archéologie.
Mais des bons, hein.
Des bons et des faux, mais voilà, on voulait donner la vraie image du terrain.
Qu'est-ce qu'on dit habituellement alors des archéologues ? C'est quoi finalement ce à quoi on pense ?
Indiana Jones, Lara Croft. Voilà le côté un peu aventurier qui fait rêver chercheur de trésors.
C'est ça,
voilà.
Mise au jour de trésors quand même.
Oui. Ah oui, oui.
Ça arrive souvent ou pas finalement ? Ou c'est une part vraiment très minime du travail d'archéologue de tomber sur des choses extraordinaires ?
Peut-être que ce qui est extraordinaire pour les archéologues ne l'est pas autant pour le grand public. Nous, on peut s'émerveiller devant des choses qui pourraient sembler...
C'est tout l'enjeu de montrer que ce sont les connaissances en fait, qui sont produites à partir des découvertes qui sont passionnantes et qui sont les vrais trésors, plutôt qu'en fait les objets qui... un seul objet ne va pas nous apprendre quelque chose sur l'ensemble d'une culture, sur les hommes qui vivaient avant nous.
Ouais.
Et c'est la totalité en fait, de cette science qui permet de donner une vraie image et de retrouver ces cultures, ces modes de vie. Et c'est ça vraiment qui est passionnant.
Ouais. Et alors, quand on est une jeune étudiante, pourquoi on s'intéresse à cette discipline en particulier ? Alors, pourquoi ce choix pour vous ? Qu'est-ce qui vous plaît autant dans l'archéologie pour qu'on comprenne bien ce qui vous motive ? Anne-Lise ?
Ces sociétés du passé qui sont quand même assez fascinantes et de pouvoir... tout l'enjeu de retrouver à partir de petits indices, se dire...
D'arriver à reconstituer une histoire.
Reconstituer le puzzle d'un fragment à un autre fragment et arriver à un jeu intellectuel aussi pour comparer et reconstruire tout cela. S'interroger, poser des questions, émettre des hypothèses, les vérifier, les invalider,
la science,
et recommencer.
Quoi, hein, la vraie méthodologie scientifique, hein, c'est ce que vous décrivez.
Voilà.
Ouais. Et Marie, vous ?
C'est un peu pareil, hein, c'est bien pour ça qu'on est partis ensemble faire ce tour. C'est vrai que c'est fascinant en fait, de découvrir petit à petit. En fait. Moi, je suis toujours fascinée en fait, de voir à quel point, à partir de petits indices comme ça, qui peuvent paraître complètement ridicules à quelqu'un qui ne connaît pas.
Au bout d'un pinceau. Hein.
C'est ça. donc, une couche de terre d'une certaine couleur. Et en fait, à partir de ça, associé avec d'autres indices, on peut retrouver la manière dont les personnes vivaient. Et moi, je suis toujours aussi ébahie en fait, constater ça.
Ouais. Est-ce que vous avez des périodes qui vous intéressent plus que d'autres ? Et quand on est archéologue, est-ce qu'on doit rapidement se spécialiser dans quelque chose, dans une discipline particulière au sein même de l'archéologie ou pas ?
Oui, on est un peu obligé de se spécialiser.
Mais c'est pas facile.
Ce sont des choix compliqués.
Et alors, quel a été le vôtre en l'occurrence ?
La proto-histoire, donc entre la préhistoire et les périodes historiques.
Et pour Marine, c'est la même chose ?
Oui, c'est pareil. Ça.
Ouais. On est dans le même master.
Vous travaillez ensemble, effectivement.
Voilà.
Alors, donc, cet Archéotour, c'est un blog, avant
c'est
tout.
Ça.
C'est un blog que vous proposez donc, sur Internet. On peut aller voir un petit peu ce qui se passe. On peut vous suivre. Et tous les soirs, c'est-à-dire que vous êtes sur votre site pour fouiller. Et tous les soirs, vous faites une sorte de rapport, au fond, aux internautes, c'est ça ?
C'est ça. Alors, plus qu'un rapport, en fait, on va aborder des sujets qui viennent assez naturellement. Donc, un jour, ça va être les conditions météorologiques qui sont assez importantes quand on travaille dehors. L'autre jour, ça va être le contexte historique qui est bien sûr important pour bien comprendre le site.
Un type de mobilier, un portrait d'archéologue qu'on aura rencontré.
Vous faites des entretiens aussi, c'est ça ?
Oui, des bonnes occasions de découvrir le métier et les questionnements.
Des parcours très intéressants.
Ouais. Et est-ce que vous avez senti une dynamique alors, justement, dans ce que vous proposiez ? Est-ce que ça a pris sur la toile ? Et est-ce qu'on vous a posé des questions pour savoir un peu aussi comment se déroulaient ces fouilles ?
Alors, c'est un peu la grande difficulté, c'est que nous, naturellement, on n'a pas cette fibre de connexion, on va dire. Et donc, on a été un peu plongé dedans avec le projet. Et on découvre, en fait, là, par exemple, en venant à l'émission, nous, c'est une grande première. Et c'est très motivant pour nous. Mais on se rend compte que c'est un véritable enjeu, en fait, de pouvoir partager ça, parce que nous, notre but, c'est de le partager le plus largement possible. Ouais. Mais ça demande un gros travail.
C'est un boulot à part entière, en fait.
Voilà.
La communication autour d'un projet, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas forcément les outils adéquats, enfin on tâtonne un peu.
Internet, c'est pas mal comme outil déjà pour communiquer.
Oui, on a ça Facebook, bien, ça. Le blog, on apprend.
Yves Agide, un conseil justement.
Non, moi je trouve que c'est formidable votre expérience, parce que
merci.
Non seulement vous avez l'air d'être motivé pour vous, donc vous serez d'excellents archéologues, mais en plus, vous faites de l'enseignement, vous allez recruter des archéologues. L'archéologie, c'est quand même le fondement de notre histoire, donc c'est absolument... Les conséquences de ce que vous allez découvrir sont très très importantes pour qu'on en prenne conscience et qu'on décide de notre futur en fonction de ce passé.
Ouais. Alors vous avez découvert les sites de Saumur, hein, dans une fondation d'une maison du néolithique de 50 mètres de long. Vous êtes allé dans la Drôme, dans un abri sous roche apparemment. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, Marie?
Donc après, on a été à Gergovie. Donc,
c'est près de Clermont-Ferrand, c'est ça?
C'est ça, juste au sud de Clermont-Ferrand, donc le lieu de la fameuse bataille contre César. Et ensuite, on a été dans les Vosges, sur un site médiéval, donc un ancien monastère.
Ouais.
Et maintenant, on est en Île-de-France.
Voilà, c'est ça.
Pour prouver qu'on peut trouver des choses tout près de chez nous.
Ouais. Combien de temps vous restez sur chaque site, à peu près?
2 semaines.
2 semaines. Et là, vous avez fait des découvertes intéressantes, en tout cas pour vous?
Alors, pour nous,
sur l'ensemble des fouilles.
Alors, les découvertes, elles sont à plusieurs niveaux, en fait. Déjà, au niveau humain, ça, c'est assez incroyable, en fait. Parce que c'est un milieu très diversifié et assez passionnant au niveau des personnes. Mmh. Parce que ce sont des parcours assez, assez fous, en général. Et donc, pendant 2 semaines, on va vivre avec un groupe de personnes. Et on apprend à connaître chacun, à connaître... le parcours qu'ils ont eu, ce qui les a amenés à l'archéologie, et ça c'est en général des découvertes passionnantes. Et après, au niveau archéologique, chaque site est passionnant, parce qu'on découvre la période, pour nous c'était une découverte à chaque fois, la période, les méthodes, les méthodes se retrouvent en général sur tous les sites, mais...
On apprend à s'adapter. Voilà. À chaque type de contexte.
Oui.
Et donc, on peut vous suivre sur Internet. Vous nous donnerez l'adresse pour pouvoir aller consulter cette archéotour.
Oui, l'avez. Tout à fait. Donc, c'est sur le site MyAtlas. Donc, en tapant sur Google, on retrouve assez facilement.
Absolument.
Donc, archéotour sur MyAtlas. Voilà.
Et il est en lien sur La Tête au Carré. Donc, bonne fin de fouille. Hein.
Merci beaucoup.
Et puis, on espère évidemment que vous aurez d'autres très beaux travaux à l'avenir et pourquoi pas des découvertes dont vous viendrez nous parler dans quelques années à ce même micro. Merci beaucoup à toutes les deux.
La Tête au Carré.
On part à Saint-Dié dans les Vosges où nous attend Gilles Fumet. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association pour le développement du Festival international de géographie. Nouvelle édition, alors la semaine prochaine, hein, 29, 30 septembre et 1er octobre. Quel sera le thème là, de cette année?
Alors nous avons décidé de consacrer notre festival aux animaux, un territoire humain, monde animaux. Voilà. Une réflexion sur ce qui se passe actuellement et voir comment les géographes peuvent répondre aux questions concernant la question animale aujourd'hui.
Ben c'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs, oui. Qu'est-ce que la géographie a à dire du monde animal aujourd'hui?
Beaucoup de choses, parce que si vous voulez, nous sommes arrivés au terme d'une période qui a commencé, on va dire en gros, sous Descartes, qui avait prétendu que les animaux étaient des machines dépourvues de sensibilité. Et donc, d'ailleurs, au passage, au même moment, Rembrandt peint le bœuf écorché au Louvre, et où l'animal est pendu, comme vous le voyez, si vous avez ce tableau en tête, comme le Christ en croix, qui pose la question de la désacralisation de la chair, du sacrifice qui devient de la viande. Donc, on a le grand enfermement dont parlait Foucault pour les humains, vous rappelez, les prisons, les hôpitaux, qui s'enclenche pour les animaux. Et aujourd'hui, avec l'industrialisation de la production de la viande, donc on a une vraie question des géographies qui est de savoir si nous avons le droit de priver d'espace des êtres désormais doués de sensibilité. Voilà, puisque le code rural, l'article L214 du code rural dit que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Est-ce que nous avons le droit de les enfermer? C'est bien de la géographie.
Et alors, vous avez invité l'Afrique du Sud pour cette nouvelle édition. Là aussi, vous parviendrez à faire des ponts entre cette question animale et l'Afrique du Sud?
Oui, alors c'est intéressant parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a un rapport à l'animal, comme vous savez, donc assez construit par les Anglais, c'est-à-dire l'animal, l'animal tropical et l'animal de la savane. Et à la différence de nos enfermements dans les zoos, où nous avons enfermé des animaux derrière des cages, les Africains, les Sud-Africains, avec les Anglais bien sûr, les Anglais et les Sud-Africains, ont laissé les animaux dans une semi-liberté et on va les visiter. Voilà, donc on a une réflexion, une problématique un petit peu différente, qui est que lorsqu'on veut découvrir les animaux tropicaux avant Nicolas Hulot et toutes ses émissions, va dans un parc anglais.
Gilles Fumet, vous allez décerner un prix, le prix Vautrin Lude. Alors on ne le connaît pas forcément très bien, mais c'est l'équivalent du Nobel de géographie.
Oui, alors c'est un prix qui a été bâti en collaboration avec l'Académie Nobel pour valoriser des chercheurs qui dans le monde avaient véritablement contribué à une action originale dans leur pays. Et là, cette année, donc le jury du prix Vautrin Lude, qui porte le nom de celui qui a écrit pour la première fois le mot « America » sur une carte de géographie en 1507 à Saint-Dié. C'est pour ça que le festival a lieu à Saint-Dié. Donc ce prix Vautrin Lude est décerné à Akin Mabo Djungé, qui est un Nigérian, qui est le premier Africain qui vient d'avoir le prix, qui a beaucoup contribué à comprendre et à piloter l'urbanisation au Nigeria. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans les villes en Afrique, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de s'urbaniser à grande vitesse avec tous les problèmes que nous connaissons.
Voilà, c'est donc le FIC de Saint-Dié et ce sera la semaine prochaine, 29, 30 septembre et 1er octobre à Saint-Dié des Vosges, et tout le programme est en lien lui aussi sur le site de la Tête au Carré. Merci Gilles Fumet et donc à la semaine prochaine dans les Vosges.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir. Dans un instant, nous parlons des rêves. A rolling of thunder, wolves calling each other as the roses they cover in the black of the night. Passions extinguish in short whispered sentences, bandaged from memory. Is the thought of yesterday. Now I look past my shoulder for the face of my mother. Did I see her smiling, or was it all a dream? No, I seem to recall the perfume of roses, the day they all hiding, the dewdrops are frozen. Half full, half blind, half awake girl. Half full, half blind, half awake world. Some roses, the wolf is sending messages. Sweet perfume of love just under our noses. I won't hold my horses, just leave what's above. Sweet labor of love, just surrender to the other. Half full, half blind, half awake girl. Half full, half blind, half awake world. Half full, half blind, half awake world.
overdoses, the sweet vapor of love, just like a drug, it discloses, awake and quiet senses, we'll write a new synopsis, the sweet liquor of love, you left a drop to discover.
Blossom Roses avec Her à l'instant sur France Inter. Suite et fin de notre club des têtes au carré avec vous, Perrine Ruby. Vous êtes chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et vous participez au Monde Festival. C'est organisé à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 septembre à Paris dans différents lieux de la capitale. Alors avec des débats, des spectacles, des rencontres, des ateliers entre l'Opéra Bastille, le Palais Garnier, le Théâtre des Bouffes du Nord, le cinéma Gaumont Opéra. Et le thème justement de cette année, c'est le rêve. Et vous, vous serez à l'Opéra Bastille. Hein. Vous ne trompez pas d'opéra. Ce sera le 24 septembre, donc dimanche, à 11h30, pour parler des rêves, avec Isabelle Arnulf, qui est neurologue, qui a été votre élève, d'ailleurs, Yves Agide.
Mais oui, oui, bien sûr.
Ben vous voyez, ils finissent au théâtre aussi, vos élèves.
Mais oui, mais ouais. On finira tous au théâtre.
Et puis Lancelot Hamelin, qui est dramaturge et romancier, pour une discussion donc à bâton rompu autour de ce thème. On voulait vous faire plaisir, donc on a trouvé, pour illustrer ce sujet, un extrait d'Inception.
Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous ne nous en rendons même pas compte. C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment?
On est en train de rêver.
Inception en 2010, Christopher Nolan. Perrine Ruby, il y a beaucoup de films qui sont consacrés au rêve comme ça ou pas?
Je vous remercie de me poser la question. Il y en a deux français
que vous aimez bien,
qui sont assez récents, que j'ai trouvé très réussis. C'est La science des rêves,
ouais.
et Réalité de Quentin Dupieux, qui date de l'année dernière, je crois, qui est vraiment remarquable.
Ouais, avec Alain Chabat, c'est ça? Et La science des rêves avec Charlotte Gainsbourg.
Exactement.
Ouais, ça doit être compliqué quand même de représenter les rêves au cinéma, comme d'ailleurs c'est compliqué d'étudier les rêves pour un scientifique. Comment on fait alors exactement pour travailler sur cette question? Vous n'êtes pas très nombreux à le faire. Hein?
Non, pas du tout. Et j'aime beaucoup ce parallèle que vous faites, parce que c'est vrai que en fait, c'est vraiment un objet, un phénomène inattrapable sous toutes, ouais, les coutures, en fait, parce que effectivement, c'est difficile de faire de la recherche dessus, mais on peut pas le représenter, on peut pas le filmer, on peut pas l'observer, en fait.
C'est ça.
Et du coup, c'est la raison principale pour laquelle c'est très difficile de chercher et d'étudier rêve, c'est qu'en fait, il faudrait savoir quand ça se passe, où ça se passe, et ça, on a du mal à le savoir vraiment, exactement. Ouais. Donc il faut trouver des ruses pour l'étudier, divers et variés. Alors on est quelques-uns à s'y atteler en France, pas beaucoup. On est deux avec Isabelle Arnulf à travailler sur cette question.
Ah oui, c'est très peu, oui.
Et dans le monde, on n'est pas tellement plus, on est peut-être une vingtaine.
À cause de la méthodologie, justement, qui est difficile à mettre en place?
Parce que c'est très difficile de trouver un angle d'attaque, une façon d'étudier, d'investiguer cette question, en fait.
Ouais. Alors là, vous venez de publier sur la question.
Oui.
Comment vous faites alors concrètement pour étudier les rêves alors?
Eh ben, il y a différentes solutions pour ruser. En fait, la méthodologie scientifique, c'est de mettre un phénomène en chiffres. Et alors mettre le rêve en chiffres, c'est un peu compliqué.
J'imagine, oui.
Et du coup, la principale complication, c'est donc on peut pas dire je rêve, on peut pas observer un rêve au moment où il se passe, et puis on n'a pas accès, il peut pas sortir de la tête du rêveur, le rêve. Donc nous, pour l'observer, on peut pas. Et la seule chose qu'on a, c'est a posteriori le souvenir du rêve, dont on sait pas s'il est complet ou pas, on a toutes les dimensions qui traversent l'interface entre le sommeil et l'éveil. Donc ça, c'est compliqué. Mais c'est une des premières méthodes qui a été utilisée et qui est quand même assez efficace et intéressante. C'est l'étude du souvenir qu'on a de nos rêves.
Ouais. Voilà. Donc là, vous prenez un panel de personnes, une quarantaine là en l'occurrence pour cette étude, hein, et vous leur demandez de raconter leurs rêves pendant quoi, une semaine?
Oui, là, dans cette étude, on leur a demandé de effectivement raconter leurs rêves tous les matins s'ils se souvenaient d'un rêve pendant 7 jours. Et c'est vrai que c'est... On peut s'intéresser à différents aspects quand on fait de la recherche sur le rêve, mais si on veut essayer d'avoir des indices sur une fonction éventuelle du rêve, évidemment que c'est très intéressant de s'intéresser au contenu et qu'est-ce qui peut faire varier ou influencer le contenu du rêve.
Alors, à quoi rêvent les gens, alors, principalement, quand on étudie comme ça 40 personnes, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent de façon cyclique ?
Eh bien, on rêve principalement de ce dont on a vécu, en fait.
Ouais.
Ce qu'on a vécu Donc ça a été bien montré, et nous, ce qu'on a voulu faire dans cette étude, plus particulièrement, en fait, c'est d'essayer de mieux comprendre quel filtre le rêve appliquait à la vie éveillée. C'est-à-dire, quel élément de la vie éveillée il sélectionnait.
Mmh.
Et on s'est dit que c'était la meilleure manière, en tout cas une bonne manière, d'avoir des indices sur sa fonction. Par exemple, s'il sélectionne que les choses émotionnelles ou que les choses pas importantes, que les choses anciennes, que les choses récentes. Et du coup, on a essayé de mettre en place un nouveau protocole qui nous a permis d'avoir une meilleure vision des mémoires anciennes ou des mémoires pas importantes qui peuvent être incorporées dans le rêve, qui jusqu'à présent avaient été assez peu étudiées. Et du coup, en fait, l'idée, c'était d'arriver à identifier les événements de la vie éveillée qui étaient incorporés dans le rêve.
Et qu'est-ce qui ressort alors de cette étude, vraiment, principalement ? Qu'est-ce que vous avez appris ?
Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'on incorpore énormément d'événements qui se sont passés la veille, ça on le savait, mais on incorpore aussi beaucoup d'événements qui se sont passés il y a plus d'un an. Par exemple, dans notre étude, il y avait 40 sujets qui ont rapporté des rêves pendant une semaine, donc en moyenne, ils ont rapporté 6 rêves chacun. Donc 40 sujets, 6 rêves chacun, ça fait quelque chose comme entre 240 et 250
rêves,
donc ça fait beaucoup de rêves. Et en moyenne, il y avait 2 événements de la vie éveillée qui étaient incorporés dans leur rêve. Donc ça nous amène à environ 500 événements de la vie éveillée qu'on a pu analyser, qui étaient incorporés dans les rêves. Donc ça fait un très gros échantillon. Donc il y a une grosse partie d'événements qui sont passés la veille, mais il y a aussi quasiment 17% d'événements qui sont passés il y a plus d'un an. Donc dans nos rêves peuvent apparaître des choses récentes, des choses anciennes, et aussi des choses émotionnelles et des choses qui ne le sont pas. Et ça, c'était important, c'était un des objectifs de cette étude, parce que dans la littérature actuellement, le peu de choses qu'il y a laisse penser que, en fait, les rêves n'incorporent que des choses importantes ou très émotionnelles de la vie éveillée. Et quand on a lu Freud, et si on se souvient souvent de ses rêves, on sait bien qu'on rêve aussi de choses complètement triviales. Et du coup, ça me semblait important d'apporter des arguments scientifiques en faveur de cette observation-là. Et on l'a tout à fait observé, c'est-à-dire que parmi ce très gros pourcentage des événements de la vie éveillée qui datent de la veille, on s'est rendu compte que la majorité de ceux qui datent de la veille sont pas importants. Alors que si on les prend tous dans leur ensemble, la majorité est importante, mais la veille, en fait, c'est surtout des choses pas importantes. Donc ça, c'était un premier résultat que j'ai trouvé très intéressant, qui donnait justice à Freud. Je trouve que c'est important parce qu'il se fait beaucoup attaquer par la communauté scientifique.
Et puis ?
Et l'autre résultat tout à fait important...
Très vite.
C'est que les rêves ont tendance à diminuer l'intensité émotionnelle des événements de la vie éveillée. Donc on a vu que quelque chose de très négatif vécu dans la vie éveillée, quand on en rêve, c'est moins négatif. C'est également le cas pour les positifs. Et du coup, c'est un peu comme si le rêve neutralisait l'émotion et jouait un rôle dans la régulation émotionnelle.
Et vous allez en reparler longuement donc, sur la scène de l'Opéra Bastille le 24 septembre, donc dimanche à 11h30. Il agit dans 30 secondes, une réaction évidemment, c'est un sujet qui vous passionne.
C'est tellement formidable. La question c'est pourquoi on rêve ? Et Freud a fait des interprétations. Est-ce que la science peut faire de nouvelles interprétations ? Quand on dort, on est en dehors de l'environnement, on est donc avec son seul cerveau, on a donc des mémoires qui sont là, récentes et anciennes, qui s'entrechoquent. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le chaos quand on rêve, toujours. Alors, il faut essayer d'aller chercher les événements qui sont les plus intéressants. Et quels sont les éléments nerveux qui, dans le cerveau, sont à l'origine des rêves?
Il faudra qu'on fasse une émission. On fera une émission sur la question, parce que là, on est tous frustrés, évidemment. Mais on peut aller, en tout cas, à l'Opéra Bastille, dimanche à 11h30, avec le Monde Festival, pour poursuivre la discussion avec vous et avec vos invités sur ce sujet, Perrine Ruby. Merci à tous. Passez un très bon week-end. Ainsi s'achève ce club.